Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser poursuit sa réflexion sur les nouvelles dimensions de la justice avec ce soir Lily Martinet qui va nous parler de la justice culturelle. Après la justice climatique qui nous a emmenés dans l'infiniment grand, nous allons passer ce soir à l'infiniment petit, c'est-à-dire à des signes culturels. La mondialisation, en effet, transforme tout. Elle transforme un emblème traditionnel en un logo commercial ou des pratiques rituelles votives en des gadgets festifs de l'autre côté de la planète. Tous ces transferts de sens réclament justice. Et c'est bien une nouvelle dimension de la justice dont il va être question ce soir avec Lily Martinet. Lily Martinet est chargée d'études à l'Institut Max Planck pour le droit procédural à Luxembourg et elle a signé récemment un livre intitulé « Les expressions culturelles traditionnelles en droit international ». Bonsoir Lily Martinet.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous parlez dans votre thèse d'un droit culturel. Des droits culturels, c'est quoi un droit culturel ?
Alors, les droits culturels, c'est une catégorie des droits de l'homme. Et c'est des droits qui sont apparus après la Deuxième Guerre mondiale. On parle souvent de droits de seconde génération ou de deuxième génération. Et c'est des droits qui ont pour objet de protéger le droit de participer, par exemple, à la vie culturelle pour une minorité, ou aussi les droits de propriété intellectuelle.
C'est plutôt des droits collectifs, non ? C'est le droit d'un groupe, d'après ce que j'ai compris, c'est que quand un groupe revendique qu'on ne touche pas à ses symboles, c'est un droit collectif, c'est un droit des droits de l'homme, bien sûr, mais le droit des groupes culturels, on devrait dire plutôt, Lily Martinet.
Alors, il y a une petite pirouette juridique qui s'opère. On dit traditionnellement que c'est des droits qui sont collectifs, mais d'exercice individuel. C'est-à-dire qu'une communauté ne va pas pouvoir agir pour faire valoir ses droits culturels. Ça va être un individu au sein de la communauté qui va revendiquer son droit.
De là va naître, j'imagine, beaucoup de difficultés parce que les communautés, les groupes sont jamais homogènes. Il y a toujours des gens qui sont plus ou moins d'accord. Et cet individu qui porte la parole de sa communauté, qu'est-ce qu'il va revendiquer, Lily Martinet ?
Alors, il va revendiquer des choses assez différentes. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'une tribu au Canada. Un des individus de la tribu a revendiqué le droit de chasser et de pêcher sur des terres qui allaient disparaître en raison de développement industriel.
Il y a une affaire très récente qui a secoué le Canada il y a quelques mois sur cette question de l'extension d'une ligne de chemin de fer, je crois, ou d'un pipeline.
Alors, il y a les affaires sur l'extension du pipeline, il y a aussi les stations de ski. Donc les stations de ski, il y a plusieurs affaires, il y a une affaire au Canada et aux États-Unis. Et c'est assez similaire, c'est des montagnes sur lesquelles il y a des lieux sacrés, où des membres de tribus pratiquent des rituels, des cérémonies. Et il y a une idée de développement qui est de construire une station de ski pour pouvoir avoir des activités de loisirs, et donc il y a un conflit d'usage sur le lieu.
Un conflit d'usage et un conflit de signification également, parce que ce qui est sacré pour les uns est simplement une terre appropriable pour les autres, pour du développement économique, pour des loisirs. Et là, il y a un entrechoc de signification entre d'une pratique ou d'un endroit en l'occurrence.
Oui, tout à fait. C'est vraiment la différence entre la signification et les valeurs qui sont attachées à un lieu. Donc la communauté va considérer que ce lieu est sacré, qui peut être par exemple, dans le cas du Canada, c'était le lieu de vie et d'appartenance d'un esprit, l'esprit du grizzly. Et en face, ça va être plutôt un espace de loisirs, un espace pour faire du ski et avoir un développement économique local.
Alors, ça va se poser de manière absolument aiguë, Lily Martinet, pour l'art africain. Je pense au nombre de statues ou d'objets qui sont dans nos musées et que nous contemplons comme des œuvres d'art, alors qu'elles avaient un usage traditionnel d'évoquer la mémoire d'un mort, par exemple. Et là, il y a le conflit de signification est à son comble.
Oui, on va avoir même, ça va poser problème dans les pratiques muséales. C'est-à-dire qu'à certains objets sacrés, les communautés vont demander au musée de prendre en compte la valeur et la signification qu'ils donnent à cet objet. Et on va avoir certains musées qui vont, par exemple, accepter que certaines communautés fassent des rituels qui vont à l'encontre de pratiques de conservation. Donc, je pense à un exemple, c'était un musée qui avait des masques rituels. Et dans la communauté, on considérait que les masques étaient vivants, donc il fallait les nourrir. Et a été organisée par le musée une séance où les membres de la communauté ont pu nourrir les masques, ce qui bien sûr va complètement à l'encontre des pratiques de conservation, puisqu'à partir du moment qu'il y a de la nourriture, ça peut poser problème.
C'est intéressant parce que ce qui est un objet vivant pour eux est un objet muséifié, d'ailleurs, on dit. Pour nous, c'est dans quel pays cela se passait-il?
Alors ça, c'est aux États-Unis.
Alors, donc ça veut dire qu'il y a un conflit de signification, mais pour le droit, ça pose des problèmes qui sont, alors là, qui ont donné lieu à pas mal de contentieux d'ailleurs, de savoir est-ce que on peut s'approprier, et j'allais dire s'approprier sans en conférant un sens différent. Est-ce qu'on peut s'approprier une pratique culturelle, par exemple, je ne sais pas, transformer un signe sacré en un logo pour des marques de chaussures?
Alors, c'est arrivé par le passé. On a l'exemple aux États-Unis, la tribu Zia, qui a un symbole qui est central à toutes les étapes de la vie d'un individu, donc de la naissance jusqu'à la mort. Ce signe est sacré, il est utilisé dans tous les rites. Et par un concours
C'est une
de.
représentation graphique,
Oui,
ceci.
c'est une représentation graphique, et par un concours de circonstances, il est devenu le motif du drapeau du Nouveau-Mexique. Et ce signe a donc été utilisé un peu partout au Nouveau-Mexique et sur des objets très profanes, et parfois c'était insultant, donc par exemple des toilettes ou ce genre de choses. Et la tribu s'est vraiment offusquée de cet usage et a essayé de le combattre pendant des années, mais elle n'a jamais vraiment réussi à faire cesser l'utilisation.
En droit américain, auprès des juridictions américaines.
Alors oui, c'était auprès des juridictions américaines. Alors il y a eu une amélioration. Leur mobilisation n'a pas été vaine. A été créée une base de données des insignes tribaux. Et cette base de données est utilisée par l'Office de la propriété intellectuelle aux États-Unis pour vérifier chaque marque qui est enregistrée. Donc on regarde avant d'enregistrer une marque si c'est l'insigne d'une tribu. Et si c'est le cas, on considère qu'il y a des droits antérieurs et que donc on ne peut pas enregistrer.
C'est-à-dire que un groupe culturel a une propriété sur la forme, sur la forme, sur un sigle, on pourrait dire, sur une forme particulière, dont elle revendique le monopole de l'usage, où son usage ne doit pas heurter cette communauté. Puisqu'on parle de l'honneur, c'est véritablement de cela qu'il s'agit. Et surtout que dans le cas de la tribu Zia et du Nouveau-Mexique, c'est le Nouveau-Mexique, c'est-à-dire que c'est quand même une mémoire coloniale derrière cela, Lily Martinet.
Oui, c'est complexe parce que si, parfois, donc il y a cette idée d'atteinte à l'honneur, puisque le signe est une extension de l'identité culturelle de la communauté. Donc la communauté s'identifie au signe et le signe est identifié à la communauté. Donc le fait que ça soit utilisé de façon
Ça
en
porte atteinte à
connexion.
l'identité, de voir le signe qui est son identité la plus profonde, la plus intime, celle qui accompagne les rites d'initiation et tout le parcours de la vie, de la voir sur des bâtiments officiels américains, de la voir sur des plaques de voiture, de la voir sur les documents fiscaux. Effectivement, ça, on peut comprendre que ça choque la communauté en question.
Oui, ça la choque. Mais après, on a des contre-exemples. On
Par
a par
exemple.
exemple, il y a la tribu Apache était très très fière qu'un hélicoptère soit nommé Apache. Et ils ont même eu des représentants religieux qui ont fait des rites de bénédiction de l'hélicoptère. Donc tout est question de circonstances et
Et de perception. Et de perception de la part de la communauté. Est-ce qu'elle se sent honorée par la reprise par la mer américaine des Apaches, qui montrent une tribu guerrière, ou est-ce qu'elle se sent au contraire humiliée? Malheureusement, j'ai l'impression que le ressentiment est un sentiment plus répandu que l'honneur, Lily Martinet.
Alors oui, mais c'est aussi parce que les affaires dont on entend parler sont les affaires dans lesquelles il y a eu justement une friction, qu'il y a eu un conflit qui est né de l'usage. Et il y a, je pense que dans le rapport aux États-Unis, il y a l'histoire et les injustices historiques qui renaissent de l'usage et de l'appropriation culturelle. Donc ça réactive tout le passé et toute la charge de la colonisation.
Mais parfois, la distance entre la communauté à laquelle on emprunte un signe, si je puis m'exprimer ainsi, et la communauté d'exploitation de ce signe peut être extrêmement éloignée. Je pense à l'affaire des tatouages pour les leggings Nike, qui a été extrêmement importante. Est-ce que vous pouvez vous rappeler un peu les circonstances de cette affaire, Lily Martinet?
Alors, donc, c'est Nike qui a commercialisé une gamme de pantalons de sport leggings, reprenant des motifs de tatouages traditionnels des îles Samoa.
Les îles Samoa, donc on est de l'autre côté du Pacifique.
On est loin. Et ces tatouages traditionnels sont normalement réservés aux hommes, et les leggings étaient commercialisés pour les femmes. Donc le fait d'accoler des symboles réservés aux hommes sur des leggings de femmes était vraiment vécu comme une insulte et une injure à la culture des îles Samoa. Et il y a eu une répercussion sur Internet. Et c'est vraiment là où on voit la mobilisation d'Internet en tant que caisse de résonance des revendications des communautés. Et Nike a été obligé de retirer du commerce les leggings.
Ben oui, parce qu'on imagine qu'aux îles Samoa, ça représente une toute petite part de l'amortissement de ces fameux leggings de Nike. Bon, et c'est grâce à Internet qu'il y a cette propagation, et puis j'imagine des campagnes très très dures contre Nike.
Oui, c'est aussi parce que ça a été repris par les communautés maoris. Qui sont dans les mêmes problématiques que dans les îles Samoa et qui sont très 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 actives sur ce champ.
C'est ça. Alors Lily Martinet, vous êtes, je le rappelle, vous êtes juriste et vous avez travaillé en droit international. Alors c'est intéressant en soi d'ailleurs que ce soit du droit international. Et vous nous parlez des Maoris ou des îles Samoa, mais est-ce qu'on a des exemples de conflits de culture à propos des formes et à propos des codes culturels? Pourrait-on dire, dans l'espace extra-traditionnel, quoi, dans notre monde contemporain?
Oui, alors il y a des exemples. Par exemple, c'est les H&M. Les magasins de vêtements qui ont commercialisé une gamme de t-shirts avec des groupes de métal sur les t-shirts.
Et du groupe de musique, quoi, ou de la communauté métal, on
dirait. De la communauté métal, mais au lieu de payer pour avoir des vrais groupes, ils ont créé leur propre groupe. Et donc, ils ont commercialisé une partie de la culture d'un groupe de culture subalterne ou underground.
Oui, de subculture, on dirait.
Subculture.
Oui, subalterne, Lily Martinet.
Oui, pardon.
C'est odieux ce que vous venez de dire, bon.
Ouais. Mais donc, de culture underground.
D'accord, très bien.
C'est vrai. Et qui a vraiment réagi violemment contre cette appropriation, qui pour elle était vraiment, la communauté métal elle considérait que c'était injurieux.
Oui. C'était une exploitation sans royalty. C'était effectivement, c'était une manière de les exploiter, sans que ça procède d'un quelconque contrat, on pourrait dire.
Exactement. Le gros problème, et c'est là où se trouve le cœur des difficultés à régler, c'est l'absence d'accord et d'échange équitable. L'absence d'accord d'une part et d'autorisation de la communauté pour exploiter l'expression culturelle traditionnelle, et aussi l'absence de retour sur les valeurs qui ont été générées par l'appropriation.
Oui, c'est ça. Alors, on va revenir sur la valeur générée, mais ce qui est surprenant, c'est comme un groupe métal, je ne connais pas la subculture métal, mais j'imagine qu'elle n'est pas tellement néolibérale, quoi. Elle n'est pas tellement soucieuse de monnayer la culture, et pourtant, là, elle a réagi sur ce terrain-là, en disant, mais vous nous utilisez, il faut payer.
Oui, l'idée c'est que vous ne pouvez pas vous approprier nos codes, notre iconographie et toute la culture que nous avons développée sur des générations pour commercialiser des t-shirts qui n'ont aucun lien avec la musique ou avec les groupes
existants.
Et la culture.
Et alors comment ils se sont défendus d'ailleurs, Metal? Ils ont eu une...
Alors ils ont eu une façon assez drôle de se défendre puisqu'ils ont décidé de créer des passés sulfureux au groupe qui avait été créé par H&M.
Et les faire exister,
ou de les faire exister, mais de les faire exister avec ce qu'il y a de pire dans la communauté métal. Donc par exemple des groupes qui avaient des chansons néo-nazies ou ce genre de choses.
Pour disqualifier H&M.
pour disqualifier H&M et montrer à quel point tout ça a été vraiment artificiel.
C'est intéressant cet exemple Lily Martinet parce qu'on voit que il y a un échange d'honneur et déshonneur quoi. Hein. C'est-à-dire vous avez pris, vous nous avez comment dirais-je humilié, vous nous avez exploité. Eh ben nous on se venge en vous déshonorant, en déshonorant la marque et comment la déshonorer si ce n'est tenir des propos injurieux, sulfureux, inacceptables et on retrouve d'ailleurs cette frontière de l'inacceptable. C'est-à-dire que la dépossession par un tiers, la dépossession en soi est une humiliation et donne lieu à des contentieux.
Oui, la dépossession signifie pour la communauté que son identité culturelle et la façon dont elle s'identifie ne lui appartient plus. Donc elle est dépossédée
de son identité,
des référents culturels, de son identité.
Donc fondamentaux de leur identité.
Exactement.
Et alors il y a aussi un autre exemple qui était intéressant, c'était les coiffes traditionnelles. Je crois qu'on est toujours en Amérique du Nord. Hein. Mm. On est toujours en Amérique du Nord parce que c'est bien sûr le lieu idéal, j'allais dire, pour se produire de tels conflits, vu que on est dans un pays de, on pourrait dire pudiquement de settlers, hein, de gens qui se sont installés. En fait, c'est des pays coloniaux, on dirait en termes plus crus. Et donc utiliser des coiffes rituelles, eh ben c'est très choquant pour les gens qui appartiennent bien sûr à cette communauté-là.
Oui, parce que la coiffe amérindienne est associée avec l'idée du dirigeant, des personnes qui ont l'honneur de porter cette coiffe. Et tout le monde ne devrait pas pouvoir porter cette coiffe. Et il y a une pratique qui s'est développée avec le temps dans tout ce qui est festival de musique comme Coachella, etc. Où les gens se mettaient des coiffes pour avoir l'air un peu edgy, à la mode, etc. Et la réaction contre cette pratique a fait que plusieurs festivals ont décidé d'interdire les coiffes. Donc, il est interdit de porter une coiffe dans plusieurs festivals aux États-Unis.
Un peu comme si, je parle sous votre contrôle là, Lily Martinet, un peu comme si les affaires judiciaires, les conflits portés devant la justice américaine ou les justices un peu partout dans le monde, d'ailleurs nous avons eu des exemples comme cela en France, étaient l'occasion d'une reconnaissance mutuelle. Où on retrouve cette idée que c'est par la médiation judiciaire qu'on va retrouver ce qui ne s'est pas passé politiquement, la reconnaissance mutuelle.
Oui, il y a une idée il y a un courant de fond derrière l'idée d'appropriation culturelle qui est une idée de réparation. C'est en empêchant les pratiques d'appropriation culturelle, on va d'un certain côté réussir à opérer une réparation des injustices historiques qui ont été commises et retrouver un équilibre entre la communauté et le reste de la population.
Donc on est bien dans une problématique de justice.
Oui, et d'équité.
Et donc l'honneur n'est pas qu'un prétexte, parce que vous dites bien c'est identitaire, c'est pas un prétexte, mais la question des identités se fonde sur les supports culturels. Et alors on a l'impression qu'il y a des communautés qui sont plus actives, plus dynamiques, plus vindicatives que d'autres. Je pense notamment aux Maoris dont il a déjà été question, le fameux Haka, hein, que tous les téléspectateurs, tous les fans de rugby connaissent ce rituel. Eh bien il est labellisé en quelque sorte par les Maoris.
Il y a différents types de haka. Mmh. Le haka, c'est le terme générique pour désigner cette catégorie de danse.
Qui est une danse votive, qui est une danse pour s'attirer la faveur des dieux.
Alors, mais il y a des haka pour plein d'occasions différentes. Le haka le plus célèbre, c'est celui des All Blacks. C'est celui qui est réalisé avant les matchs de rugby. Et ce haka est maintenant protégé par une loi qui crée un droit moral. Et donc la tribu d'origine du haka et son créateur doivent être mentionnés à chaque fois que ce haka est utilisé.
Mais par exemple, je sais pas moi, l'équipe de rugby d'Angoulême veut faire un haka de manière dérisoire pour se donner des forces. Comment est-ce qu'elle va faire concrètement pour mentionner qu'elle paye un tribut, ne serait-ce que symbolique, à la communauté maori?
Alors la loi est réduite, son champ d'application est réduit au territoire de Nouvelle-Zélande. Donc tant qu'ils font le haka en France, ça ne pose pas de problème. En revanche, s'ils le réalisent en Nouvelle-Zélande, là, ils devront s'acquitter de cette obligation.
Ce qui montre au passage, Lily Martinet, que cette question de la défense de l'honneur de la communauté, de son identité, il s'adresse autant au monde entier, hein, on le voit pour les leggings des îles Samoa, que à l'État colonisateur ou à l'État qui est tenté d'écraser ces minorités.
En fait, c'est très complexe parce que on voit qu'il y a toute une partie des problématiques qui se développent en dehors du droit dur. En fait, ça va être vraiment du droit mou et de la soft law, et ça va plutôt être
des rapports de force.
Des rapports de force médiatiques, réussir à avoir une répercussion médiatique qui va faire que certains comportements vont changer. Et le droit va vraiment venir au dernier moment pour régler les problèmes quand il y a une résistance qui est trop importante de l'État ou de certains groupes. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would. If I could, I surely would.
Matière à penser, Antoine Garapon.
Et toujours avec Lily Martinet pour parler de la mondialisation des signes et de tous les problèmes de conflit d'honneur et de reconnaissance que ça pose. Lily Martinet qui a choisi de nous faire entendre El Cóndor Pasa, célébrissime chanson de Simon & Garfunkel, mais qui n'a pas été sans polémique.
Non. Alors, ça a été l'origine de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel et matériel. La petite histoire voudrait que ça soit cette chanson qui soit à l'origine.
Ah oui, parce que il y a une revendication de droit moral sur la musique.
Alors, cette chanson reprend, c'est une reprise d'une chanson qui a été composée au début du XXe siècle à partir d'airs du folklore traditionnel andin. Et la Bolivie a considéré qu'on s'appropriait une partie de son patrimoine culturel et matériel et a donc, dans les années 70, en 1973, envoyé une communication à l'UNESCO en disant qu'il était nécessaire de prendre en charge une forme de protection pour tout ce qui était patrimoine culturel et matériel. À l'époque, on parlait plutôt de folklore, et ça a commencé les travaux qui ont abouti en 2003 avec une convention.
Mais alors on pourrait imaginer que la fameuse chanson de Jacques Brel, Amsterdam, qui est en fait un chant irlandais du XVIIIe siècle, les Irlandais pourraient réclamer un droit moral. On pourrait même continuer jusque God Save the Queen, qui est un air français de Lully pour la fin de la maladie du roi. C'est infini, Lily Martinet, ces conflits, parce que ça veut dire que les formes, dans le fond, c'est une contestation de l'idée même d'universel.
Alors c'est un des gros arguments qui va à l'encontre de tout ce qui est l'idée d'appropriation culturelle, c'est l'interculturalité. La culture naît de l'échange.
Ah oui.
Donc on a des exemples, l'impressionnisme, c'est la découverte des estampes japonaises.
Et au Picasso, les masques africains, etc.
Voilà, ouais. Et on a un exemple qui cristallise tout, c'est, je ne sais pas si vous voyez les wax, les tissus.
Oui, bien sûr. Très célèbre en Afrique et sur les marchés africains. Oui.
Voilà. Et ces wax, c'est la rencontre en fait des Néerlandais avec la technique du batik en Indonésie, qui ramène ça et qui font ces tissus qui ensuite sont commercialisés en Afrique. Donc on voit tous les échanges culturels et les effets de la mondialisation. Et quasiment toutes les pratiques culturelles sont des mélanges de différentes cultures et de différents groupes. On a l'exemple aussi au Panama. Ça s'appelle les molas, c'est aussi du travail du textile. Et la technique de base pour ce travail, les molas, c'est les Français qui l'ont apporté. Et maintenant, ils sont protégés en tant que, qu'expression culturelle traditionnelle du Panama.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale, Lily Martinet, là-dedans ? C'est-à-dire que la culture soit toujours le résultat d'une rencontre, d'une confrontation à l'altérité, bien sûr, et c'est peut-être sa version la plus noble. Mais alors, à ce moment-là, pourquoi réserver à certains groupes une sorte de droit d'appropriation ? C'est d'appropriation culturelle, je n'ose pas dire de monopole, mais est-ce que ce n'est pas un peu contraire à la vague aujourd'hui des communs ou de la... Mais d'un commun respectueux, un commun qui résulte de l'échange.
C'est un des gros problèmes. On voit, si on regarde l'évolution du droit de la propriété intellectuelle, on voit qu'au XXe siècle, on a une extension et une intensification des droits de propriété intellectuelle. Et à partir de la fin du XXe siècle et début du XXIe, on a justement tout ce mouvement des communs, du libre, qui vraiment se développe et prend de l'ampleur. Et on a clairement toutes les questions des négociations qui sont en cours, par exemple à l'OMPI.
L'OMPI, c'est l'Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle.
Voilà, il y a des négociations en cours pour avoir des protections des droits de propriété intellectuelle sur les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles.
Oui. Pour ne pas déposséder aussi des groupes de leurs semences, de leur manière de faire, qui parfois n'ont pas respecté les conventions internationales sur la propriété intellectuelle.
Le problème, c'est que ces négociations, elles ont commencé en 2000 et elles n'avancent pas vraiment. Et on voit qu'il y a une contradiction fondamentale à essayer de combattre l'extension de la propriété intellectuelle par des nouveaux droits de propriété intellectuelle. Mmh. Par exemple, quand une communauté va essayer de combattre l'enregistrement d'un de ses symboles comme une marque, la réponse ne devrait pas être plus de propriété intellectuelle, mais plutôt de restreindre la propriété intellectuelle et d'empêcher une entreprise d'enregistrer son symbole comme marque.
Bien sûr. C'est-à-dire que ce que vous voulez dire, par exemple, Hermès va trouver un motif, au Mexique, par exemple, qui sont particulièrement riches et créatifs en matière de design, on pourrait dire, sans craindre l'anachronisme. Hermès prend un motif, on pourrait imaginer qu'elle fasse, que Hermès fasse des foulards avec, en signalant d'où vient le motif, mais qu'elle n'aide pas jusqu'à déposer la marque comme étant une marque Hermès.
Ce que certaines communautés souhaiteraient, c'est qu'Hermès mette le nom de la communauté, oui, et reverse une partie des bénéfices qui ont été générés. Et ça, c'est possible.
J'ai Hermès parce qu'en fait, ça s'est posé, cette affaire de contrefaçon, ça s'est posé parce qu'en plus, dans la mondialisation, c'est la reproduction et c'est surtout la circulation, Lily Martinet. C'est-à-dire qu'une fois que, Hermès ou Coca ou Nike a trouvé un logo, a trouvé une forme belle et attractive, elle peut être reprise notamment par le tatouage. Il y a eu des problèmes pour les tatouages.
Oui, alors il y a une affaire assez célèbre de tatouage où c'est le tatouage de Mike Tyson.
Oui.
Donc, Mike Tyson s'est fait faire un tatouage par un tatoueur américain et ce tatouage est influencé par tout ce qui est culture maori. Donc c'est une espèce de signe de courbe et contre-courbe autour de l'œil. Mm-hmm. Ce tatouage a par la suite été reproduit dans une comédie américaine. Je crois que le titre en français c'est Very Bad Trip. Mm-hmm. Et le tatoueur a agi en contrefaçon parce qu'il avait enregistré le droit d'auteur, enfin le copyright. Aux États-Unis, ils enregistrent les copyrights. Et donc, il disait qu'il avait un copyright sur le tatouage de Mike Tyson et que les studios qui avaient produit le film devaient lui verser des royalties. Et le gros problème dans cette affaire, c'est que on pourrait très bien rétorquer qu'ils n'avaient aucun droit sur ce tatouage puisqu'ils étaient dans le domaine public, puisque les Maoris les font depuis des siècles et des siècles.
Oui. Est-ce qu'il y a encore un domaine public ? Est-ce qu'il y a un domaine public global en matière artistique, Lily Martinet ?
Alors oui, il existe un domaine public. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de gens pour protéger et pour faire valoir les droits sur ce domaine public.
Parce que parfois, si on passe aux pratiques, on laisse les formes et les signes, où on voit cette difficulté d'un nouveau réinvestissement par d'autres cultures dans un même signe. Mais parlons par exemple des pratiques et du patrimoine immatériel, qui pose beaucoup de problèmes, le patrimoine immatériel. Les Français ne sont pas les derniers, d'ailleurs, à revendiquer de tas de choses de la vie française comme un patrimoine immatériel. Parfois, ça pose des questions même entre les États, Lily Martinet.
Oui, alors là où ça pose problème, c'est à partir du moment qu'un État va revendiquer une forme de propriété sur du patrimoine culturel immatériel. qu'on a l'exemple typique, c'est au sein de l'UNESCO, quand il y a les inscriptions sur les listes, on a certains États qui...
L'UNESCO tient des listes, je vous interromps, l'UNESCO tient des listes ou de répertoires d'inscriptions de tout le patrimoine universel, mais aussi des pratiques culturelles, du patrimoine immatériel.
Alors, il y a deux types de listes. Il y a les listes du patrimoine mondial que tout le monde connaît très bien. Et il y a deux listes pour le patrimoine culturel et immatériel. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'un État soumet un dossier de nomination et ça passe devant un comité et c'est inscrit. Mais la petite astuce des États pour revendiquer une forme de propriété est de rajouter le nom de l'État dans le nom de l'élément. Donc, par exemple, de dire, je crois que c'est l'Arménie qui avait dit que le lavage était une pratique arménienne.
Le
Donc,
dans pain lavage, c'est du pain arménien.
Voilà, c'était...
La pita, c'est du pain libanais. Ben non, la pita appartient à une sphère, à une zone culturelle qu'il n'y a pas, dans laquelle il n'y a pas que le Liban.
Que l'Arménie.
Que l'Arménie, en grand, pour le pain lavage, mais j'ai changé. Mais alors,
ah oui, pour le
Il y a une autre difficulté, Lily Martinet, c'est quand des groupes attaque des coutumes des pays du Nord. On a eu le cas cet hiver avec des chars antisémites, avec des inscriptions, je crois que c'était en Belgique, je ne sais plus dans quelle ville. Et là, c'est un peu le mécanisme inverse, c'est-à-dire qu'un groupe culturel s'estime humilié par un signe objectif, comme le fait de se mettre la tête en noir, par exemple, de se mettre du cirage noir, en disant « nous sommes négro-africains, ça nous offense », alors que la coutume de cette fête n'était pas du tout raciste. Alors, comment se démêler de tout ça, Lily Martinet ?
Alors, le premier cas dont vous parlez, c'est le carnaval d'Alost.
Alost, oui, c'est ça,
qui,
oui.
Qui a été inscrit sur une des listes UNESCO dont on parlait tout de suite. Et qui a été à la suite, il y a eu des communications. En fait, il y a eu plusieurs fois où il y a eu des chars qui posaient problème, qui étaient considérés comme antisémites.
Oui, ça pose problème à tout le monde d'ailleurs, ça.
La communauté a rétorqué que le carnaval était un moment d'humour et de satire et que tout le monde devait pouvoir être caricaturé. Et il y a eu des discussions qui ont été qui ont commencé à être mises en œuvre pour essayer justement de voir comment pouvaient être limitées les pratiques au carnaval, et ça a été vécu comme une censure par la communauté. La communauté a souhaité quitter la liste en raison de l'implication de l'UNESCO qui lui dirait ce qui est antisémite, ce qui ne l'est pas, ce qui est acceptable ou pas pendant le carnaval.
C'est toujours en fait un débat global autour de la signification, du lien entre le signe et le signifié, entre signifiant et signifié, on pourrait dire en termes de la sémiotique générale.
Oui, c'est exactement ça. Le problème, c'est les significations que nous allons assigner à certains signes ne seront pas parfois ceux que la communauté considère comme étant la juste compréhension de leur tradition.
Par exemple, il y a eu le cas, je crois que c'était pour un festival qui était aux Pays-Bas, non dans lequel, traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, on se met du noir sur la figure.
Alors, c'est aux Pays-Bas, ils ont pour la fête de Saint-Nicolas, il y a un personnage justement qui, effectivement, alors le terme qui est souvent utilisé, c'est le terme qui vient des États-Unis, c'est de blackface.
Schwarzpiet.
Schwarzpiet, qui est justement qui est grimé, donc de façon très stéréotypée, caricaturale, et qui est considéré par beaucoup de personnes comme raciste.
Alors, on voit le nombre de problèmes que ça peut poser. D'ailleurs, dans un sens également positif, dans le sens d'une de l'UNESCO ou des juridictions comme une grande scène d'explication collective sur le sens qu'on prête aux choses, aux signes, aux gens, et on voit bien que ça n'a pas du tout, le fait de se grimer pour un festival néerlandais n'a pas le même sens que lorsque un scandale qui a lieu aux États-Unis, quand des photos d'étudiants blancs se mettent du noir sur la figure. Puis il y a aussi quand même maintenant toutes les pratiques animales qui vont poser aussi beaucoup de problèmes.
Oui, à partir du moment qu'il y a une composante animale dans une tradition, on va avoir vraiment une tension très forte qui va se créer avec tout ce qui est le mouvement actuel du droit, des droits des animaux, le droit animalier, etc. Et on va avoir, ça va être par exemple toutes les questions liées à l'abattage rituel. Ça peut être toujours en Belgique, il y avait une fête où pendant cette fête, on avalait des petits poissons vivants dans du vin. Et il y a eu un contentieux. Donc la Cour a considéré qu'il y avait une valeur culturelle et historique à cette fête et que donc les actes n'étaient pas des actes de cruauté. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce contentieux a fait évoluer la tradition. Et qu'à l'origine, on avait un grand nombre de personnes qui buvaient le poisson au vin, et maintenant, ça est vraiment très restreint.
Ce qui est très intéressant, c'est que si je prends l'exemple des animaux et des combats de coqs ou des, par exemple, qui est très très populaire dans les Caraïbes, où on fait les combats de chiens aussi, d'ailleurs, dans le nord de la France, hein, ça a donné lieu à une élaboration très intéressante de la Cour suprême des États-Unis sur qu'est-ce que c'est finalement que le bonheur animal, qu'est-ce que signifie une pratique rituel.
Oui, il y a eu une affaire aux États-Unis, c'était sur un groupe religieux de la Santeria. Et une des pratiques religieuses centrales de cette religion est le sacrifice animal. Et une ville en Floride avait décidé d'interdire tout sacrifice d'animaux. Et la communauté qui pratiquait la Santeria a été jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et a obtenu que les sacrifices d'animaux soient une manifestation de la religion et soient protégés en tant que le droit de pratiquer sa religion.
Ah oui, sacré, sacrifice, on est vraiment au cœur de l'identité, peut-être la plus profonde d'ailleurs, d'un groupe qui se lie au surnaturel et qui se lie à ses dieux par le sacrifice. Et donc là, c'est une liberté qui est la liberté de religion qui est attaquée. On va retrouver ça d'ailleurs pour tous les sacrifices rituels des religions, notamment des religions monothéistes, qui génèrent aussi pas mal de contentieux, Lily Martinet.
Oui, il y a beaucoup de contentieux par rapport à l'abattage rituel.
Oui.
Et c'est très problématique parce que c'est vraiment, on voit que le diable se cache dans le détail. Ça va être vraiment dans la mise en œuvre de l'abattage rituel. On va voir des contentieux qui vont naître, par exemple, sur des pratiques différentes pour tout ce qui est viande cachère. On va avoir des groupes orthodoxes qui vont considérer que, par exemple, l'agrément en France est insuffisant et qu'il n'y a pas un contrôle suffisant de la viande parce qu'il faut que la viande soit glatte.
C'est-à-dire glatte?
Glatte, ça veut dire qu'il y a une inspection post-mortem des poumons pour vérifier qu'il n'y a pas d'impureté. Et donc, on a une affaire à celui-là.
Et qui est une affaire qui était portée devant les juridictions françaises, je crois, hein, celle-ci, et qui était intéressante parce qu'elle nous ramène au début de notre discussion, Lily Martinet. Un groupe, ça n'est jamais homogène. Un groupe, c'est toujours traversé par des divisions, par des gens qui s'estiment plus orthodoxes que d'autres et qui considèrent que la pratique n'est pas complètement pure. Et on voit à quelle difficulté se confronte une mondialisation des personnes et des signes, parce que, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de s'expliquer, pourrait-on dire.
On est dans une situation où il y a un attachement viscéral à ces éléments.
Oui, c'est le cas de le dire, oui.
Et cet attachement fait qu'il y a énormément d'opportunités pour des dissensions. Et pour des points de vue différents et pour qu'un contentieux naisse ou des conflits naissent. Et ce qui est très important dans ce que vous avez dit, c'est cette idée qu'il puisse y avoir des dissensions internes, qui est quelque chose qui est souvent mal compris et qui est à souligner.
Ben, on l'a vu par exemple dans le rapatriement des masques, des têtes maoris, je crois, une fois de plus, avec un débat intense qui ne fait que commencer, qui n'est pas du tout résolu. Alors, on voit bien les différentes parties en cause dans cette question d'appropriation culturelle ou d'agression culturelle, mais de demander des comptes à d'autres pratiques. Comment est-ce que le droit ou les textes internationaux que vous avez étudiés, Lily Martinet, en tant qu'internationaliste, comment est-ce que le droit, où est-ce qu'il fait passer les limites en fait? Quelles sont les limites qui doivent arbitrer tous ces conflits de part et d'autre autour de l'appropriation culturelle?
Alors, la question qu'on peut se poser de façon préliminaire, c'est est-ce qu'il s'agit de questions de droit?
Il y a du droit dedans. Il y a des conventions internationales, des inscriptions sur les listes. C'est vrai que c'est un droit qui est peu développé. Il y a toute la question du listing et de l'unlisting sont des questions qui ne sont pas du tout encore réglées juridiquement, mais bon.
C'est du droit mou, quand même. Principalement, on se retrouve avec des normes qui sont ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire qui vont encourager les États à agir d'une certaine façon, mais qui vont imposer très peu d'obligations contraignantes. Ensuite, pour certaines questions d'appropriation culturelle, on se place plutôt sur le champ de la morale et on quitte les problématiques juridiques.
Oui, mais on voit bien, alors je vais reformuler ma question, parce que là je parle plutôt en théorie du droit, si vous voulez. Où est-ce que par où faire passer les frontières pour dire, par exemple, imaginons qu'un groupe culturel pratique des sacrifices humains. Bon. Au nom de quoi on dira, ben non, on ne peut pas accepter, même quand bien même ce serait votre identité la plus profonde qui s'exprimerait dans cette pratique, ce n'est pas acceptable.
Oui, alors le droit pose certaines bornes et certaines limites. Donc les limites, par exemple, on peut citer celles qui sont posées par la Convention de 2003 relative au patrimoine culturel et matériel. Et il y a trois limites, c'est la compatibilité avec les droits de l'homme, avec le développement durable et aussi le respect mutuel entre les communautés.
Toujours cette idée d'un échange. Toujours cette idée que la culture, il n'y a pas une culture. La culture, c'est une conversation infinie, parfois conflictuelle, entre différentes identités.
Oui, et d'ailleurs, c'est le respect mutuel qui a été utilisé pour retirer le carnaval d'Alost de la liste.
En disant, votre pratique ne peut pas ne pas respecter les autres groupes. Mais est-ce que derrière tout ça, on rejoint des débats qui sont beaucoup plus contemporains et puis qui dépassent largement l'identité culturelle, qui sont comment apurer les injustices du passé, Lily Martinet. On a vu pour l'Amérique, on le voit dans la question de la colonisation, c'est-à-dire que le droit et le droit global est devenu le lieu où une attente de reconnaissance demande à être satisfaite.
C'est un gros problème parce que le droit, normalement, on sait très bien que le temps est une des dimensions centrales du droit. Et on pourrait penser qu'avec le temps qui passe, on devrait avoir une forme de prescription.
C'est tout le contraire qu'on constate.
Et non, avec le temps, en fait, il y a une exacerbation des revendications.
Oui. Mais ça, c'est tout à fait. Ça ne me surprend pas dans le sens où on le voit pour beaucoup de traumatismes. On l'a vu pour la Shoah avec la deuxième et la troisième génération des victimes. C'est-à-dire que le temps ne va pas dans le sens de l'oubli, mais au contraire dans le sens d'un ravivement de la plaie, de la blessure.
Je crois que pour cette question, il faut se diriger vers tout ce qui a été fait en justice, tout ce qui est réparation et justice transactionnelle, et trouver des solutions qui vont être un peu du sur-mesure. Par exemple, en Nouvelle-Zélande, ils ont un système qui est le tribunal de Waitangi.
Pour justement, c'est-à-dire ce tribunal, vous pouvez expliquer ce que c'est que le tribunal de Waitangi ?
C'est un tribunal qui a été mis en place pour réussir à pour les Maoris à avoir un respect des droits qui leur ont été consacrés dans le traité de Waitangi, qui est le traité qui a instauré la relation entre les Maoris et les colons.
Et ce tribunal répond à des formes qui sont particulières et qui ne sont pas celles d'un tribunal néo-zélandais ordinaire.
Ah non, du tout, en fait, c'est très très différent.
Et là, on termine en quelque sorte notre voyage, c'est-à-dire que l'explication culturelle ne passe plus par des juridictions ordinaires, mais a trouvé ses propres formes de régulation.
Oui.
Merci beaucoup, Lily Martinet.
Merci, Antoine Garapon.
Matière à penser, Lily Martinet, Pierrick Charles, Julie Voinchet, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. À demain!